Bonjour, bienvenue sur 100 mots de tête.
Sur 100 mots de tête.
La web radio, pas prise de tête.
Aujourd'hui, nous recevons Richard Monvoisin, chercheur et enseignant à l'Université de Grenoble. Il est docteur en didactique des sciences. Et il est une des figures du mouvement sceptique et zététique francophone. Bonjour monsieur.
Bonjour, bonjour. Je suis content d'être là.
Alors aujourd'hui, on va parler de zététique. On a pu lire ici et là, sur Internet, que la zététique, c'est l'art du doute. Et en préparant cette émission, on s'est dit que c'était l'étude des croyances. Alors, pour commencer cette interview, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et définir un peu plus ce qu'est la zététique ?
Eh bien, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Richard. Vous pouvez m'appeler Richard, ça va très bien. On peut se tutoyer, ça me va très bien. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble depuis un peu plus de 15 ans. Et j'ai fait des études de physique-chimie et des études de philosophie. Et un jour, je me suis demandé si je ne pouvais pas me consacrer à l'étude des théories qui posent des problèmes. Que ce soit des phénomènes qu'on considère comme bizarres, paranormaux, extraordinaires, étranges, ou que ce soit les raisons pour lesquelles on se met à croire à quelque chose, parfois sans fondement, parfois avec un peu de fondement. Et donc, j'ai travaillé sur plein de sujets différents, que ce soit des thérapies un peu bizarres, que ce soit des cas de manifestations extraordinaires, d'envoûtement. Hier après-midi, j'ai passé mon après-midi avec une guérisseuse magnétiseuse, par exemple. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de regarder est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et si ça marche, pourquoi ça marche? Si ça marche pas, ben pourquoi ça marche pas? C'est ça mon boulot.
Alors d'abord, est-ce que la zététique est une science et en quoi elle influence les autres sciences? Ou elle est influencée par les autres sciences aussi?
En fait, c'est un mot un peu valise, la zététique. Ce n'est pas une science à proprement parler, c'est une démarche de doute. Et donc, elle est dans toutes les disciplines scientifiques. Si vous êtes géographe et vous faites de la géographie, et que vous êtes au 15e siècle, vous allez vous rendre compte que les cartes, elles sont dessinées de manière à faire une croix et à être centrées sur Jérusalem, et qu'on ne va certainement pas donner de crédit à l'idée d'un quatrième continent, parce que ça ne colle pas aux écritures saintes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un continent par fils de Noé. Et donc, il y a trois fils de Noé. Seth et Japheth, je crois que c'est ça. Et donc, à chacun, il y a un continent. Donc, si on découvre les Amériques, par exemple, bah, ça ne colle plus. Soit il faut un quatrième fils, soit... Et en fait, ces cartes-là, elles sont très orientées par les croyances, quoi. Donc, quelqu'un qui aurait une démarche de doute en géographie, il dirait non, ces cartes, il n'y a pas de raison de centrer sur Jérusalem. Et puis, bon, et il douterait. En histoire, quelqu'un à qui on raconte... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Est-ce que le vase de Soissons dans l'histoire de Clovis, est-ce que c'est vraiment vrai? Quand il va se dire, est-ce que vraiment l'histoire est juste? Qui c'est qui en a parlé le premier? Ah, celui qui en a parlé, c'était 100 ans après l'épisode. Bon, ça semble un peu bizarre cette histoire. Ça, c'est une démarche de doute qui relève de la zététique. Si vous êtes en physique et qu'on vous dit « Ah, c'est étonnant que parfois, quand on prend certaines formes de rayons et qu'on met la main dessus, bah, ça laisse une trace qui donne l'impression que c'est un truc, c'est peut-être l'ectoplasme de la main qui laisse une trace. » Mais en fait, en physique, vous allez vous dire « Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qui peut expliquer ça ?» La réponse est oui. En fait, il y a un phénomène qu'on appelle l'effet corona qui donne une explication à ça. Chaque fois que vous utilisez le doute dans une discipline, vous faites de la zététique parfois sans le savoir, un peu comme la prose, quoi. C'est pas, y a pas de chapelle, quoi. Toutes les disciplines peuvent s'en servir.
Quel est l'intérêt de la zététique? Qu'est-ce qui a amené Henri Brock à créer cette discipline?
Être critique sur le monde, on n'a pas attendu ni moi, ni vous, ni Henri Brock pour construire ça. Depuis le début de l'humanité, les gens y réfléchissent à savoir est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai. Donc la démarche critique, elle est vraiment ancienne, mais dans les années 80, Henri Brock a développé ça parce qu'il s'en rendait compte que la télévision apportait des informations parfois vraiment très douteuses. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais dans les années 70-80, il y avait des gens qui venaient à la télévision montrer leur capacité à tordre des cuillères et des métaux et des trucs à distance par le pouvoir de l'esprit. Et alors qu'avant que la télévision arrive, ben, les croyances de ce genre-là elles circulaient que de voisinage en voisinage ou dans les quartiers, là, d'un seul coup, il y avait un écho monstrueux à cause de la télévision. Donc il s'est dit, peut-être qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose, parce que lui, il se rendait compte que les étudiants qu'il avait pouvaient parfois, alors qu'ils avaient tous les outils dans la tête pour pouvoir en faire la déconstruction eux-mêmes, ils se mettaient à adhérer à des choses parfois complètement fausses. Donc il s'est dit, il faut que je monte un enseignement spécifique pour ça. Donc il a repris un vieux mot, le vieux mot zététique, ça vient de chercher en grec, et il s'est dit, je vais enseigner l'esprit critique, quoi. Je vais construire une méthode d'investigation critique vis-à-vis des théories qu'on me propose. Et de fil en aiguille, moi j'ai travaillé avec lui, puis après j'ai monté ici mon propre labo, et on en est arrivé à là. Donc pourquoi la zététique s'est montée? C'est parce qu'il y avait besoin, en fait, on se rendait compte qu'il y avait des gens qui se faisaient manipuler, ou qui se faisaient mal soigner, ou qui se faisaient entourlouper, ou qui se faisaient escroquer. Sur des sortes de mensonges que l'on prend pour vrai, et donc on se retrouve soit à payer un soin, soit à payer un truc en pensant qu'on va réussir ou qu'on va gagner ou qu'on va obtenir quelque chose qui compte pour nous, puis en fait non. Donc c'est pour prémunir les gens de se faire avoir qu'on a construit ça.
Comment faites-vous pour étudier ces phénomènes? En quoi la zététique est-elle une démarche scientifique?
Il arrive parfois qu'on m'appelle et qu'on me dise « Viens voir parce que dans telle maison il y a des bruits bizarres, parce que dans telle maison, il y a des objets qui se déplacent, ou... etc. Est-ce que tu peux venir voir ?» Donc moi, mon travail, c'est d'aller voir. Le dernier cas, c'était dans une abbaye qui est dans les Bauges, là-bas. Il voulait savoir pourquoi on entendait des bruits dans son grenier. On a un principe en science, c'est je ne vais avoir besoin de l'hypothèse du fantôme que si j'ai déjà épuisé toutes les autres hypothèses connues, habituelles. Qu'est-ce qu'on connaît comme hypothèse habituelle ? Dans les cas de bruit dans les greniers, les rongeurs, quelqu'un qui fait des blagues, les oiseaux de nuit, c'est les trois essentiels. Mais par contre, une chose que peu de gens savent, c'est que tous les oiseaux de nuit, chouette, chevêchette, chouette, hulotte, chouette, hibou, grand-duc, hibou, tout ça, quand ça marche sur un plancher, ça fait un bruit de pas humain. Vraiment, ça fait toc, 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 toc. On jurerait qu'il y a quelqu'un dans le toit. Donc si vous montez au grenier, que vous voyez qu'il y a un trou qui permet à une chouette de rentrer, et qu'en plus vous trouvez les fameuses pelotes de déjection, vous savez qu'elle recrache là, parce qu'elle ne digère pas les os, les poils, tout ça, elle gerbe une boule et ça tombe. Si vous retrouvez ça, l'hypothèse que ce soit une chouette qui fasse le bruit le soir, elle est grande, quoi. Et si vous voulez être complètement sûr, ensuite vous grillagez le trou, et si le bruit ne se produit plus, vous savez que vous avez trouvé le phénomène, quoi. Voilà. Et c'est pratiquement toujours ça. Tous les bruits de fantômes pour lesquels on nous appelle, c'est ça. À une exception près, je connais un endroit, je ne sais pas s'il faut que je dise le nom, mais bon, bref, c'est sur la route, une route qui va... vous passez Visil, c'est un peu plus loin là-bas, dans un complexe industriel. Tout le monde dit, quand on se promène là-bas, qu'on entend la nuit des chuchotements, des hurlements et des bruits bizarres. Et c'est vrai. Pourquoi on entend des bruits et des chuchotements? C'est parce qu'au moment où moi j'y vais, en fait, il y a en même temps d'autres gens qui sont en train de faire exactement la même chose que moi. Et en fait, vous avez 3 ou 4 groupes tout le temps là-dedans qui se font peur les uns les autres. Donc, on n'a pas de cas pour l'instant. Là, moi, je n'ai pas de cas à vous donner. Pourtant, j'ai dû voir 7 ou 8 lieux hantés. Je ne connais pas de cas pour lesquels il n'y a pas eu d'explication. À chaque fois, il y a une explication simple. Pour l'instant, le fantôme n'est pas une hypothèse qui est supportée par des preuves, quoi. En gros, si vous voulez y croire, c'est une croyance, quoi. C'est pas scientifique.
Avez-vous fait des expériences par rapport à ceux qui se mettent autour d'une table, qui croient aux revenants? Avez-vous fait des recherches là-dessus?
Tout à fait. Donc ce qu'on appelle les mouvements spirites, il y en a eu une forte communauté à Lyon, avec un type qui s'appelait Allan Kardec dans les années 1860. Il y a plusieurs méthodes chez les usagers spirites. Vous avez les tables tournantes, tout le monde met ses mains sur des tables, on convoque un esprit, la table se met à bouger et on en tire des informations. Voilà. Sinon, vous avez aussi ce qu'on appelle les tables Ouija. Ça vous parle, ça, les tables Ouija? Ce sont des plaques sur lesquelles est marqué oui, non, et puis toutes les lettres de l'alphabet. Et là, tout le monde met son doigt sur le verre, comme ça. Et ensuite, on convoque l'esprit, voilà, et le verre se met à bouger vers les lettres et on en tire un message. Alors, je peux vous dire comment, par exemple, avec des étudiants, ce qu'on a fait. On fait exactement ce qu'ils expliquent, les spirites. Donc, ils disent, ils allument des bougies, on se met dans l'ombre, on convoque un défunt, on lui dit s'il vous plaît, on est poli, et on lui dit s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous, blablabla. Moi, ce que je veux tester quand je fais ça, c'est est-ce que vraiment c'est l'esprit qui vient là et qui va nous donner son nom, ou est-ce que c'est nous qui, parce qu'on veut tellement que ça réponde, que même sans le vouloir, on va se diriger vers les lettres qui vont bien. Ce qu'on appelle, en langage technique, des effets idéomoteurs. On ne les contrôle pas, mais nos envies vont déplacer le verre jusque là où on veut. Alors là, il y a deux façons de faire. Moi, j'ai inventé deux façons de faire. Enfin, il y en a une, je l'ai piquée à Henri Brock, et l'autre, c'est la mienne. La première, c'est, je prends une feuille. L'esprit, il prend possession du verre, donc il va bouger le verre. Et donc, ce que je fais, c'est que je prends une feuille plus petite que ça, que j'ai savonnée, et je la pose comme ça dessus. Et les gens mettent leurs doigts par-dessus la feuille. Comme ça, si quelqu'un pousse, ben c'est la feuille qui va bouger, pas le verre. Donc on verra bien si c'est quelqu'un qui fait bouger la, qui, voilà. Ça, c'est la première méthode. La deuxième chose, c'est pour savoir si est-ce que le mot il vient de nous et de nos attentes, ou est-ce qu'il vient vraiment d'un esprit. Au lieu de mettre des lettres de la table Ouija qui sont toutes apparentes, A, B, C, D, E, F, G, H, I, tout ça, je prends des lettres de Scrabble, je les retourne, donc on ne sait plus lesquelles sont lesquelles. Je les mélange, on dit je les randomise, je mélange tout. On marque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dessus. Et ensuite, le verre va aller vers une des cases, le numéro 6 par exemple. Alors on marque 6, et puis 12, et puis 4, et puis etc. Et à la fin seulement, on regarde ce qui avait marqué. Et vu que personne ne voyait ce qui avait marqué, s'il y a une information qui arrive, c'est bien l'esprit qui l'a donné. Quand on fait ça, ça ne marche jamais. Jamais. La feuille bouge tout le temps, et les résultats, c'est
Donc ce n'est pas une bonne méthode pour communiquer avec les défunts. Si les défunts nous entendent, ça c'est pas la bonne méthode. Pour l'instant ça marche pas.
Qu'est-ce que vous appelez exactement l'ensemble des phénomènes paranormaux ?
La définition, quand on regarde le dictionnaire et qu'on regarde le mot par exemple paranormal, généralement on trouve qui n'est pas normal. Et avec ça on n'est pas très avancé. Par contre, la deuxième définition, elle dit paranormal, c'est ce qui n'est pour l'instant pas expliqué ou qu'on n'explique qu'au moyen d'éléments qui ne sont pas encore décrits par la science. Soit des ectoplasmes, des fantômes, des genouns, des génies qui viennent faire des trucs, des lutins, des forces inconnues, des ondes inconnues. Et dans les grandes catégories de sujets qu'on traite, ben vous avez tout ce qui est à la frontière des religions, vous savez, les miracles, les suaires miraculeux, les linges, les statues qui saignent des larmes de sang, les endroits où on trouve écrit le nom du prophète Mohammed alors que personne ne l'a écrit. Vous avez des domaines qui sont les domaines dits divinatoires, comment on lit dans le marc de café, dans les coquillages, dans les lignes de la main. La voyance rentre dedans, les médiums, les gens qui disent discuter avec les personnes décédées, les sorcières. Voilà, ça c'est les grands thèmes. Et j'oubliais aussi tout le monde des techniques de soins. Il y a souvent des techniques de soins et de santé et de métier qui nous mettent qui introduisent parfois des choses vraiment douteuses. Il y a des thérapeutes qui font des trucs qui sont douteux. Nous, notre travail, c'est de regarder ce qu'ils proposent, c'est vrai, c'est pas vrai, ça tient la route, ça tient pas la route. Alors quand c'est un rhume, même si ça tient pas la route, c'est pas très grave, parce que le rhume, bah, il passera quand même, quoi. Par contre, si c'est dans un cas de cancer, par exemple, si quelqu'un nous vend une technique à base d'une cure de jus de légumes, bah, on ne peut pas se tromper plusieurs fois, quoi. C'est-à-dire que si on fait 40 jours de jeûne pour soigner son cancer, généralement, ça finit très mal. Donc nous, notre travail, c'est de regarder est-ce qu'elle fonctionne, cette cure, ou pas. Et si ça ne fonctionne pas, bah, faut le dire aux gens, quoi. Après, les gens font ce qu'ils veulent.
Comment savoir si un phénomène est paranormal ou pas ? Comment savoir si ce qu'on nous raconte est vrai ?
Alors, eh ben, on va avoir des problèmes parce que si on arrive à mettre la main sur un phénomène paranormal et qu'on arrive à bien le caractériser, ben dans ce cas-là, il devient normal. Donc en fait, par définition, le phénomène paranormal, il échappe à la science. Je vous donne un exemple. Pendant longtemps, on ne savait pas quoi faire avec les gens qui disaient être somnambules. On ne savait pas si c'était un vrai phénomène ou pas. Vous savez, les gens qui se lèvent la nuit et puis qui font des trucs et ils ne s'en rappellent même pas. Et il a fallu attendre un moment pour qu'on se rende compte que c'était un vrai phénomène et qu'on lui donne un nom. Et là, c'est devenu finalement un phénomène scientifique normal, quoi. Donc, c'est pas exclu qu'un jour, on trouve scientifiquement quelque chose qu'on n'avait pas décrit jusque-là. Et on lui donnera un nom, puis ça deviendra quelque chose de normal. Donc ça, c'est bien décrit. Mais pendant longtemps, on pensait que c'était vraiment quelque chose de bizarre. Hein. Alors, je reviens maintenant à la question. Comment on sait que quelque chose est vrai ? C'est ça, hein ?
je ne sais même pas s'il y a une réponse simple à ça. Parce que vous savez, la plupart des gens que je rencontre, même ceux qui me racontent des trucs incroyables, même ces gens qui vous disent les choses les plus extraordinaires, sont des gens qui sont sincèrement convaincus de ce qu'ils disent. Quand les gens le disent, pour la plupart, sauf 2-3 escrocs, c'est sincère. Ils le pensent vraiment. Donc pour eux, c'est vrai. Quand un magnétiseur, quand une guérisseuse, quand un voyant vous dit quelque chose, il est souvent sincèrement convaincu de ce qu'il dit. Maintenant, est-ce que c'est vrai au sens, est-ce que c'est valable pour tout le monde? Est-ce que c'est scientifiquement recevable? Est-ce que c'est valable pour tout le monde, même si on n'y croit pas? Là, c'est vraiment déjà un autre niveau, quoi.
Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir savoir, par exemple, quand on va voir un magnétiseur, un hypnothérapeute ou un kinésiologue? Parce qu'en fait, on paye, et puis on continue, et puis après on arrête, et puis on va voir quelqu'un d'autre. Est-ce que tout ça, c'est vrai?
Alors, si je prends les exemples que vous avez donnés, vous avez pris magnétiseur, vous avez pris kinésiologue, et vous aviez pris et hypnose. Je les prends une par une? Je vous dis ce que je sais? Bon, les magnétiseurs, c'est vraiment un sujet que je connais bien. J'ai retracé toute l'histoire du magnétisme depuis 1000 ans qu'on en parle. Jusqu'à maintenant, en fait, qu'est-ce que les magnétiseurs, qu'on peut sonner chez un magnétiseur et puis lui demander un soin. La dame qui était chez moi hier, elle venait de Morzine et elle est magnétiseuse et elle, avec ses mains, elle enlève des trucs, elle dit enlever des trucs et elle est sincère, pour elle c'est vrai, pour elle ça marche. Et moi quand je regarde ça, je me dis toujours, est-ce que cette dame, elle est capable de faire quelque chose de plus que ce que ferait quelqu'un qui n'a pas de magnétisme? Est-ce que le soin qu'elle va nous apporter, est-ce que c'est plus que ce que moi je pourrais faire en étant gentil avec les gens et en les écoutant et en leur disant « Ah ben faites gaffe à votre dos, faites des étirements de la jambe », ce genre de choses. Si elle réalisait des choses qu'on ne pouvait pas expliquer autrement, là on serait obligé d'utiliser la notion de fluide ou de magnétisme. Mais pour l'instant, tous ceux que j'ai vus, j'ai dû en voir 120 ou 130, ce qu'ils font ne dépasse pas ce qu'on connaît déjà en science. Et généralement ce qu'on connaît en science, c'est les gens aiment bien qu'on prenne soin d'eux. Les gens aiment bien qu'on leur raconte une histoire. Les gens aiment bien une solution simple. Les gens aiment bien croire en ce que le thérapeute va dire. Et quand on croit dans ce que le thérapeute va dire, et ben notre cerveau, il est capable de sécréter des choses, des substances qui vont faire qu'on sent moins les symptômes qu'on a. C'est ce qu'on appelle, alors scientifiquement on appelle ça les effets contextuels. De manière générale, on appelle ça l'effet placebo. Donc l'effet placebo, il ne soigne pas directement ce qu'on a, mais par contre, il nous aide à mieux vivre ce qu'on sent. Donc on a moins mal, on est un peu plus content, on a plus d'appétit. Donc pour résumer, pour l'instant, je n'ai jamais mis la main sur quelqu'un qui fasse quelque chose qui nécessite d'avoir du magnétisme. Mais par contre, ils font quand même du bien aux gens. C'est ça qui est embêtant. Enfin, c'est ça qui est c'est bien et embêtant. Bah, plus on y croit et plus on en est content du soin. Et ce qui est marrant, ce qui est marrant ou triste, c'est que beaucoup de patients s'en vont en disant j'ai toujours mal, mais je suis content. Et généralement, les magnétiseurs, ils font des soins. Vous avez mal au coude, mal au genou, je ne sais pas où. Bon, ils vous font des trucs comme ça un peu, pour des choses un peu banales. La kinésiologie, c'est plus grave quand même. La kinésiologie appliquée, elle a été inventée par un monsieur dans les années 1960. Et ici, il y a un professeur quelqu'un qui enseigne ça dans un institut. Et eux, ils disent que le corps contient les réponses à toutes les questions. Et le corps sait, même quand vous ne le savez pas, quel est le bon médicament pour vous, le bon soin pour vous, l'allergie, etc. Et ils utilisent un truc qu'on appelle le test musculaire. Ils vous tendent le bras. Ça peut être sur la jambe aussi, mais c'est souvent sur le bras. Donc, ils tendent le bras. Et puis, ils vous mettent le produit en question dans la main ou ils vous posent une question. Est-ce que c'est la faute de votre mère? Est-ce que c'est la faute de votre père? Est-ce que c'est je sais pas quoi? Et si votre bras reste bien dur, dans ce cas-là, c'est la réponse est oui. S'il y a une faiblesse, c'est que la réponse est non, ou inversement. Ils en tirent de ça des informations pour vous proposer des soins. Et ça, on sait que c'est hyper dangereux. Les gens, ils vont se détecter des allergies à des trucs improbables. Et le cas peut-être le plus tragique, c'est 2007. C'est l'histoire d'un couple qui s'est formé à la kinésiologie appliquée à Grenoble, d'ailleurs. Puis ils sont partis en Bretagne. Ils ont fait un enfant, et en faisant des tests musculaires sur l'enfant, ils ont cru comprendre que l'enfant était allergique à peu près à tous les aliments autour de lui. Et donc, ils ont décidé de ne faire que l'allaiter. Et pendant 4 ans, ils l'ont allaité, et l'enfant est mort de faim. Il est mort sous-nutri. Donc, ce n'est pas directement la kinésiologie qui l'a tué, mais c'est un effet de cette technique-là. J'ai lu à peu près tous les livres sur la kinésiologie, aucun ne contient d'études qui montrent une efficacité. Donc généralement, quand on dit, en science, on dit, si quelqu'un prétend quelque chose, c'est à lui d'en apporter la preuve. C'est pas à vous d'aller, je sais pas, vous allez en pharmacie, vous dites, vous êtes sûr qu'il marche votre Doliprane là ? Si le pharmacien vous dit, bah, prouvez-moi que ça marche pas, vous allez dire, non, c'est bizarre, c'est à lui de me prouver que ça marche, c'est lui qui dit que ça marche, donc c'est à lui de me prouver que ça marche. Et les kinésiologues n'apportent pas la preuve de l'efficacité de leur technique. Donc je pense que si on sort content du soin de kinésiologie, c'est parce qu'on avait envie de sortir content. Mais des faits propres, je crois pas qu'il y en ait. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y en ait, en tout cas. Et la dernière technique, c'était quoi ? L'hypnose. L'hypnose, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a trois choses différentes. Vous avez les hypnoses de spectacle. Vous avez déjà vu les hypnoses de spectacle ? Mesmer, Frank Six, ils sont dans une salle, blablabla, ils parlent, et les gens descendent, et après les gens font n'importe quoi. Et voilà. Ça, c'est un truc. Le deuxième truc, c'est l'hypnose qu'on utilise en chirurgie. On appelle ça l'hypnosédation. Ça, c'est le deuxième paquet. Le troisième paquet, c'est l'hypnose thérapeutique chez certains psychologues. Les trois sont assez différents. Le premier cas, c'est l'hypnose de spectacle. Vous avez quelqu'un qui parle beaucoup, qui va vous noyer de paroles. Les gens sont venus au spectacle, ils s'attendent à voir un spectacle. En général, ils utilisent un procédé qui va leur donner la possibilité de choisir dans le public qui sont les gens les plus suggestibles. Ça ne veut pas dire les plus bêtes ou les plus... Juste les gens qui ont suffisamment envie d'y croire pour avoir un petit temps de délai. Il dit, voilà, je vais vous mettre en état de conditionnement, serrez vos mains très fort, voilà, ne vous inquiétez pas. Au bout d'un moment, je vais compter jusqu'à 10, et à 10, vous détacherez vos doigts, voilà, soit les doigts, soit les croisements comme ça. Et si vous n'arrivez pas à vous séparer les doigts, ne vous inquiétez pas, moi je vais passer, puis je vais vous libérer. Et puis après, vous viendrez avec moi, vous viendrez en bas. C'est une sorte de présélection, donc ne pas d'inquiétude, voilà, serrez bien vos mains. Et maintenant, 10, 9, 8, là, pouf. Et quand il arrive à 1, eh ben il reste 10 personnes. Alors, il y a le petit papy qui a peut-être un peu d'arthrose, qui reste coincé. Et puis, il y a les gens qui aimaient tellement le sujet qu'ils sont restés juste une ou deux secondes en plus que les autres. Et là, il leur dit surtout, levez-vous au moment où ça se produit et je viens vous libérer. Donc, les gens se lèvent. Et une fois qu'ils sont levés, en fait, c'est fini. Parce que tout le monde les regarde. On se met un stress, quoi. Et quand on est au milieu d'un spectacle comme ça, ben, on n'a pas envie de nuire au spectacle. Et donc, on fait ce qu'on nous dit parce que c'est le seul échappatoire pour le stress. Et donc, on descend. Et là, il va nous demander des actes progressivement de plus en plus engageants, quoi. Le premier acte, évidemment, s'il vous demande tout de suite, mettez-vous tout nu, tout de suite, vous allez dire, non, pas question, moi, je ne joue pas à ça. Si par contre, il vous dit, fermez les yeux et imaginez que vous êtes à la plage et que vous avez chaud. Bon, ben là, vous imaginez que vous avez chaud et peut-être même vous pouvez vous mettre un peu à transpirer. Hein. Et puis après, il vous dit, imaginez que vous mangez une glace. Alors, vous vous retrouvez à manger une fausse glace qui n'existe pas. Et progressivement, il peut vous amener comme ça à des choses de plus en plus coûteuses. Et c'est de la manipulation mélangée à de la suggestion. Mais c'est du spectacle, tout ça. Et dedans, en fait, il n'y a pas d'état particulier. Il ne vous a pas mis dans un état, toi, je t'ordonne d'aller tuer lui. Par exemple, ça n'existe pas, ça. On ne peut pas demander à quelqu'un d'aller faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire. En fait, en hypnose, comme ça, on ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Si on vous dit coupe-toi la main, personne ne se coupera la main. Ça n'existe pas, ça on connaît pas. C'est comme quand les gens se convainquent qu'ils sont en train de boire une bonne bouteille alors qu'on a mis du vin dégueulasse dedans. Hein. On a fait des tests avec des étudiants. Il y a des bonbons qui ont des goûts horribles. Mais si on les présente avec des goûts, avec un emballage avec marqué citron ou fraise, les gens trouvent ça vachement moins horrible que ce qu'on pensait. Par contre, si vous prenez un bonbon qui est bon et on lui met un étiquetage crotte de nez, comme dans les bonbons Harry Potter, là, les gens vont trouver ça épouvantable alors que c'est le même goût, en fait. Ça, c'est l'hypnose de spectacle. Après, l'hypnose de chirurgie, l'hypnosédation, ça a été inventé par une dame belge qui s'appelle Madame Fémonville. Et en gros, là encore, il n'y a pas d'hypnose. Par contre, il y a du détournement d'attention parce qu'on sait que si on détourne l'attention des gens au moment où ils ont une douleur, ils la ressentent moins. Un peu comme les sparadraps dans les poils, quoi. Si vous avez un sparadrap qu'il faut décoller, vaut mieux. Si vous avez un enfant qu'il faut, vous voulez décoller un sparadrap, vous dites ah bah regarde, je sais pas, ah t'as vu, il y a un... Et puis vous tirez vite et comme ça personne n'avait l'attention détournée, elle n'était pas concentrée sur le truc horrible, quoi. C'est ce qu'on fait aussi quand on fait une prise de sang. Si on sait que la personne elle a peur de se faire piquer, mais on va lui détourner l'attention en lui parlant d'autre chose, on va lui raconter un truc sympa. Dans les chirurgies comme Madame Fémonville, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous propose une petite anesthésie locale que vous pouvez doser vous-même à la main. Et puis, elle peut vous faire des opérations qui sont assez spectaculaires. Vous ouvrir ici la gorge, même faire des opérations à cœur ouvert, parce qu'elles ne sont pas très douloureuses, certaines d'entre elles. Et le tout, c'est quand vous sentez la douleur, elle vous raconte une histoire qui a été prévue à l'avance. Alors elle vous dit, voilà, vous vous rappelez le beau cheval blanc que vous aimiez bien, sur lequel vous promenez sur la plage. Et en fait, en pensant à ça, on ressent vachement moins la douleur. Et c'est ça l'hypnose de sédation.
Une fois, j'ai vu une sorte de reportage aux informations, comme quoi ils avaient fait une opération du cerveau avec hypnose, je crois.
Et en fait, mais ça c'est vrai. Mais en fait, c'est l'hypnose qui n'est pas vraie dedans. Parce qu'il n'y a pas d'état particulier. Mais de toute façon, quand on vous opère le cerveau, mon frère, on lui a fait ça pour une tumeur au cerveau. Et donc, pour voir si au moment de l'opération, on ne vous endommage pas la parole, la locomotion ou quelque chose, on est obligé de vous maintenir éveillé. Mais on vous propose une histoire qui va avec pour que vous ne soyez pas trop inquiet au moment où on vous ouvre la boîte crânienne, au moment où on vous tritouille. Parce qu'en fait, ça fait pas mal. Hein. Alors, vous avez une anesthésie locale, mais pas générale. Des fois, des psychologues vont se servir de processus hypnotiques. C'est l'hypnose thérapeutique, un truc qui tourne, un pendule qui bouge ou quelque chose. Là encore, ce n'est pas pour vous mettre dans un état bizarre, un état modifié de conscience, que pour l'instant, il n'y a aucune preuve d'un état modifié de conscience lié à l'hypnose. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que si le patient ou la patiente, elle y croit un peu, alors le fait d'être mise en hypnose va faire qu'elle aura tendance à dire plus de choses que si elle n'avait pas été mise en hypnose. Je vais essayer de vous faire un parallèle. Un collègue à l'université a travaillé sur un truc. Il voulait voir est-ce que c'est la consommation d'alcool qui fait que les étudiants font n'importe quoi quand ils sont bourrés, ou est-ce que c'est le simple fait de savoir qu'ils ont bu de l'alcool et que donc ils se donnent le droit de faire n'importe quoi. Donc ils ont pris des gens à qui ils ont fait boire de l'alcool, ils ont pris des gens à qui ils ont fait croire qu'ils faisaient boire de l'alcool, et ils ont comparé, les effets étaient sensiblement les mêmes. C'est-à-dire que quand les gens font n'importe quoi en faisant tourner les serviettes et en rigolant, il y a une partie qui est liée à l'alcool, mais il y a une partie qui est liée au fait qu'on sait qu'on a bu de l'alcool et donc on a un peu le droit de le faire. Là, c'est un peu pareil. On se dit, je suis en état d'hypnose, donc je suis dans un état second, donc je peux peut-être raconter des choses que je n'aurais pas racontées volontiers au thérapeute, sexuel, familial. On n'aurait peut-être pas osé le faire. Et là, on se dit, je suis dans un état un peu différent, je peux me permettre. Et donc, en fait, ça marche. C'est comme un jeu de rôle à deux, quoi.
À la télévision, les phénomènes paranormaux sont présentés de différentes manières, dans des documentaires ou des docu-fictions. Que pensez-vous du traitement médiatique qui sont faits de ces sujets ?
Généralement, ils vous racontent une belle histoire et ils disent « Alors, incroyable, c'est incroyable, extraordinaire, les scientifiques ne savent pas quoi en penser. » Bon, généralement, ils ne viennent même pas nous voir. Donc, ils ne risquent pas de savoir. Les émissions normales, paranormales, 30 histoires mystérieuses, je sais pas quoi, toujours les mêmes là. Bon. Il y a quelques années, ils avaient fait un documentaire sur le triangle de la Burle. Vous connaissez ça, le triangle de la Burle ? C'est notre triangle des Bermudes à nous. C'est un triangle qui est entre trois sommets de la Haute-Loire, Ardèche, c'est le mont Gerbier de Jonc, le mont Pila, je crois, le mont Mézin, un truc comme ça. C'est un triangle dans lequel il y aurait toujours des accidents d'avion bizarres et il se passerait des trucs bizarres. Ils disent alors mystère, alors extraterrestre, zone incroyable, la vérité est ailleurs, pouf, et ça finit comme ça. Moi je prends mes étudiants, je leur dis regardez, c'est bizarre quand même. Les points qu'ils indiquent, ils ne sont même pas tous dans le triangle déjà. Ils ne se sont quand même pas bien foulés. À mon avis, ça mérite d'être creusé. Alors j'aurais dit allez regarder si vraiment tous les accidents, où ils se sont passés, comment ça s'est passé et qui c'est qui a parlé pour la première fois de ce triangle. Comment on remonte à la source de l'information ? En l'espace d'une journée, ils se sont rendus compte que la moitié des exemples qu'ils donnaient d'accidents d'avion, ils n'existaient pas. Et deuxième chose, ils se sont rendus compte que tout venait d'une seule source. Et la source, c'était un monsieur qui s'appelait Jean Perrard, qui avait écrit un roman en 1949. Donc, ils n'avaient pas travaillé du tout, quoi. C'était honteux, honteux. Un autre cas comme ça. En Angleterre, il y a un pont qui était présenté dans une émission. Je crois que c'était... je sais plus, il y avait Jacques Le Gros, là, une émission des années 2015 ou 2014, où il disait, il y a un pont bizarre en Angleterre qui s'appelle Overton Bridge. Et sur ce pont, il se passe des trucs maléfiques. Et les chiens, quand ils passent sur ce pont, eh ben, ils se suicident. Ils se jettent dans le vide et ils meurent. Incroyable, c'est fou, c'est complètement fou. Et donc là, moi, je me suis dit, c'est intéressant quand même. Si c'est vrai, c'est génial, on n'a jamais vu ça nulle part. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres explications possibles ? Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté les gens localement, on a contacté la police locale. En fait, tout le monde là-bas sait pourquoi les chiens donnent l'impression de se suicider au-dessus du pont. Parce qu'effectivement, c'est vrai, il y a le pont, il y a un gros parapet en briques, là, des deux côtés. Et il y a des chiens, si vous les lâchez là, à ces endroits-là, bien souvent, ils se mettent à courir, ils aboient et ils sautent par-dessus le parapet et ils tombent 50 mètres plus bas. Et ils sont souvent morts, sauf une ou deux fois, quoi. Et ben pourquoi ? La réponse est que, et tout le monde le sait là-bas, mais ils ne se sont pas fatigués, les journalistes, ils n'ont même pas téléphoné là-bas. Hein. Tout le monde sait, c'est que sur le parapet, derrière le parapet, il y a une petite marche. Et sur cette marche, c'est l'endroit privilégié de tous les... En français, c'est quoi ? Les sconces, en anglais, les putois. Martres, putois, mustélidés, les trucs qui puent, qui ont une glande anale qui sent vachement fort, là. Et ça laisse une trace, une sente. Et ça, les chiens, ça les rend fous, ce genre d'odeur. Et, sauf qu'ils ne savent pas que derrière le parapet, bah, c'est le vide. Donc, ils sautent par-dessus le parapet pour choper l'odeur et ils tombent dans le vide. Donc, ils ne se suicident pas, les chiens, en fait. Ils croient poursuivre une martre et ils tombent dans le vide. Donc, en 5 minutes, c'était fini. Ce qui prouve que les journalistes, ils ne travaillent pas, quoi. Bien souvent, ils ne travaillent pas. Et un jour, il m'a dit, mais vous savez... Il me demandait mon avis sur les paralysies du sommeil. Et il m'a dit, mais si je dis ça à la télévision, il n'y a plus de mystère. Ben, je dis, bah oui, mais il faut le faire savoir aux gens que la paralysie du sommeil, ce n'est pas inquiétant, ce n'est pas des extraterrestres qui viennent vous faire des trucs. C'est qu'on se réveille, on ne peut pas bouger, et ça ne dure pas longtemps, il ne faut pas s'inquiéter, quoi. Il m'a dit, oui, mais moi, si je dis ça, je tue la poule aux œufs d'or. Si je dis ça, je pourrais plus faire mon émission, quoi. C'est là que je me dis, ils nous prennent vraiment pour des quiches, quoi.
Quand on est enfant, on peut croire à beaucoup de choses, à la magie, aux monstres, aux merveilleux. Comment se développe notre esprit critique et qu'est-ce qu'il reste de la magie et du merveilleux une fois adulte?
Super cette question. Comment je vais répondre à ça? J'ai des amis qui sont magiciens professionnels. Des fois, ils me font des tours de magie. Je jurerais qu'ils ont des dons. Ils me font disparaître un gobelet. J'ai un ami, il m'a enlevé ma montre, ma gourmette. J'ai rien vu. Ils sont capables de faire des trucs incroyables. Et je me dis toujours, si c'est de la magie, c'est fantastique. Mais si c'est un tour de prestidigitation, c'est encore plus génial. Parce que ça veut dire qu'il a réussi à me faire croire à la magie alors qu'il n'y en a pas. Je trouve ça encore plus génial. Et donc, tout le monde magique de l'enfance, même si on cherche à regarder le monde tel qu'il est, même si on cherche à savoir les choses et non plus à croire, ça n'empêche pas qu'on puisse garder son âme d'enfant. Et puis, je vous donne un exemple. On sait à peu près décrire pourquoi les gens tombent amoureux les uns des autres. Il y a des raisons parfois qui sont un peu... elles ne sont pas très... Enfin, si quelqu'un est beau, il est plus séduisant. Si quelqu'un est très symétrique, on peut arriver à voir ça. Mais moi, je préfère... Je suis amoureux de quelqu'un. Je ne vais pas chercher tous les paramètres qui vont faire que je suis amoureux de cette personne, quoi. Je préfère me dire « Ah, c'est Cupidon qui m'a lancé une flèche et je suis tombé amoureux de la personne. » Je sais que ce n'est pas vrai, Cupidon. Je sais que l'ange Cupidon, il ne va pas me planter une flèche dans le cul puis je vais avoir envie d'aller... Mais j'ai envie d'y croire à ce moment-là. Quand je regarde un film, le temps du film, si je vois, je ne sais pas, qu'il y a de super-héros qui volent, Batman qui fait je ne sais pas quoi, ou... Bon, je sais très bien que ce n'est pas vrai. Mais je suspends ma crédulité à ce moment-là pour pouvoir être dans le film, pour me laisser bercer par Harry Potter. Mais en fait, le truc, c'est que je sais à quel moment je dépose ma crédulité, puis à quel moment je reprends mon regard critique. Ce qui fait qu'on peut garder une âme d'enfant, continuer à aimer les monstres, continuer à aimer à rêver, et même savoir, en fait, ça n'enlève pas ça, quoi. C'est pas parce que je sais comment marche un arc-en-ciel, je sais comment ça fonctionne un arc-en-ciel. C'est pas pour autant que je trouve pas ça toujours génial. Et à chaque fois que je vois un arc-en-ciel, je repense aux croyances nordiques qui disent que au pied de l'arc-en-ciel, le pied de l'arc-en-ciel indique un trésor. Je sais pas si vous savez ça. C'est voilà, et qu'il faudrait aller creuser là-bas, on trouverait un trésor. C'est absolument pas vrai, mais je m'en fous. Des fois, j'ai envie d'y croire, et donc ça me fait plaisir. Mais le tout, c'est de j'y crois quand je veux, quoi. Le tout, c'est de pas confondre la croyance et puis la réalité. C'est là où des fois on peut se faire piéger.
comment l'imaginaire, la science-fiction, le fantastique et la zététique s'influencent-ils ?
On dit que les humains, ils ont un imaginaire qui est assez cohérent d'un individu à l'autre. On croit tous et toutes à peu près à la même chose. Je vous donne un exemple. C'est à peu près toujours les mêmes structures. C'est-à-dire quand on croit à un dieu, par exemple, c'est jamais un dieu qui est tout le temps là, sauf le jeudi. Ça, ça convainc personne. Ou un dieu qui vous voit tout le temps, sauf quand vous êtes aux toilettes. Personne ne croit à un dieu comme ça, quoi. Ça ne fait pas sens, quoi. C'est ça, les structures d'imaginaire, elles sont sensiblement les mêmes. Elles ne prennent pas les mêmes formes, mais le moteur, c'est un peu toujours le même. C'est, par exemple, on aime bien, notre cerveau, il aime bien se dire que si je suis attiré par quelqu'un, alors il y a forcément quelque chose qui va circuler d'un individu à l'autre. Il va y avoir un fluide, un truc liquide, des atomes crochus. Et ça, dans tous les peuples, on retrouve ça. Les gens aiment bien, à peu près partout dans le monde, prêter des intentions aux objets. Se dire, tel arbre, il doit certainement un peu penser comme moi, il me protège avec son ombre. Alors qu'en fait, l'arbre, il s'en fout, il est là, il fait de l'ombre, mais il ne sait même pas qu'il fait de l'ombre. Mais on est content de s'imaginer qu'il le fait pour nous faire plaisir, ou que l'animal, il est gentil, il se laisse tuer pour nourrir la tribu. On aime bien prêter des intentions aux objets. Donc il y a des choses qui sont vraiment très récurrentes à travers les peuples, hein. Si vous cherchez une référence là-dessus, le type le plus pointu sur les questions de structure de l'imaginaire, c'est un gars qui s'appelle Pascal Boyer. Il y a une bande dessinée qui a été faite de son livre le plus important, qui s'appelle « Et l'homme créa les dieux ». Une belle BD, une magnifique BD. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est confronté à des choses extraordinaires, bien souvent c'est l'imaginaire des gens qui fonctionne. C'est souvent eux qui surinterprètent.
Merci monsieur mon voisin pour avoir répondu à nos questions. Pour conclure cette interview, avez-vous quelque chose à rajouter ?
Eh bien, que j'ai pris grand plaisir à venir là. Et que si un jour j'ai quelqu'un dans mes proches, dans ma famille ou moi-même qui vit une lésion cérébrale, je compte sur vous pour me donner des conseils.
Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site lavoixdesgens.fr. C'était sans mots de tête, la radio du GEM. Au revoir et à bientôt.
Sans mots de tête,
la web radio du GEM.
Moi, je vois qu'à 14h, je me suis branché. Je rendais les messages, les trucs de bruit là et tout. C'est impec. Avec la radio, ça nous a fait du bien.
Sans mots de tête, la web radio sans prise de tête.